RCF.
Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement a-t-il l'intention de signer l'arrêt de mort des radios associatives? Dans son projet de loi de finances 2025, qui doit être débattu à partir de la semaine prochaine, l'exécutif entend réduire drastiquement les aides publiques accordées à ces médias de proximité. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir les syndicats et d'émouvoir les salariés et bénévoles de ces radios. Nous reviendrons dans ce magazine sur leur rôle social essentiel et sur leur intérêt pour la pluralité de l'information. Et puis, d'une baisse de subvention, nous enchaînerons avec une taxe qui n'en finit plus d'augmenter. Il ne vous reste que quelques jours pour payer en ligne votre impôt foncier si ce n'est pas déjà fait. Un impôt qui a bondi de 33% en moyenne sur les 10 dernières années en France. Et la pilule est difficile à avaler pour de nombreux propriétaires. On évoquera le sujet en deuxième partie d'émission avec le président régional de l'UNPI en Pays de la Loire. Vous écoutez RCF et Radio Fidélité, bienvenue dans l'Hebdo Région. C'est parti pour une demi-heure d'information.
L'Hebdo Région sur RCF et Radio Fidélité,
Bastien Lallier.
Il va animer les débats parlementaires tout au long de cette fin d'année. Le projet de loi de finances sera examiné à partir de la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Pour rappel, le gouvernement cherche à réaliser 60 milliards d'euros d'économies pour assainir les comptes publics. Et pour y parvenir, l'exécutif racle les fonds de tiroir jusqu'à envisager de mettre en péril la survie de nombreuses radios associatives en réduisant de 30 à 35% le montant de l'enveloppe globale du FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, un outil essentiel au bon fonctionnement de 750 radios en France. Bonjour Aubery Métro.
Bonjour Bastien.
On va faire un petit peu de pédagogie d'abord avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que précisément ce FSER? Quand et comment a-t-il été créé?
Alors il a vu le jour en 1982. À l'époque, la radio était en pleine mutation. Jusque-là, seules les grandes chaînes publiques et quelques réseaux privés pouvaient diffuser. Mais tout change avec la loi de novembre 1981 lorsque les radios libres obtiennent à leur tour le droit d'émettre sur la bande FM. Cette libéralisation conduit à la création de nombreuses radios associatives de proximité. Et c'est pour accompagner ce mouvement que l'État décide donc de créer ce fonds de soutien. Il vise à aider ces radios à payer par exemple leurs charges de diffusion. C'est important de le rappeler, les radios associatives n'ont pas de but lucratif. Leur composition de ressources est contrôlée pour l'obtention de cette aide. Par exemple, leur revenu publicitaire ne peut pas dépasser 20% du chiffre d'affaires. L'idée, c'est de préserver leur indépendance et de favoriser l'expression du pluralisme.
Et Aubery, quelle démarche est-ce qu'elles doivent faire ces radios pour bénéficier de ce FSER?
Alors chaque année, les radios déposent un dossier administratif plutôt épais auprès du ministère de la Culture. Ils vérifient le statut ainsi que l'autorisation d'émettre de manière permanente délivrée par le Conseil national de l'audiovisuel. C'est beaucoup de paperasse, je vous le disais, et cela sert à calculer dans une première partie ce qu'on appelle une subvention d'exploitation. Chaque radio associative qui a une fréquence FM ou DAB y a le droit. Et en fonction des revenus, le montant de l'aide publique est plus ou moins conséquent. Il va de 5 à 40 000 euros. Ensuite, les radios doivent prouver qu'elles accomplissent réellement leur mission de communication sociale de proximité, en faisant par exemple la promotion de leur territoire, en montrant qu'elles sont des acteurs de la lutte contre les discriminations, contre le réchauffement climatique, ou encore en menant des actions auprès des jeunes pour ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Ces critères sont dits sélectifs, ils permettent d'augmenter la dotation initiale de l'État. Ce qu'il faut retenir, Bastien, même si c'est un peu compliqué, c'est que le FSER représente en moyenne 40% du budget total des radios associatives.
Et je le rappelle, Aubery, elles sont 750 à bénéficier du FSER en France. Ça représente environ 3000 emplois directs, dont quasiment un quart est aujourd'hui menacé selon le syndicat national des radios libres. Et dans notre région, qu'en est-il exactement? Eh bien, Simon Marty est allé poser la question à Valentin Beauvalet, le directeur de la FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Il nous dresse leur portrait et nous partage son incompréhension face à cette situation.
Alors, les radios associatives en Pays de la Loire, déjà, elles sont au nombre de 30. C'est des petites radios, j'ai envie de dire. Les plus grosses, elles couvrent un département complet. Donc là, vous êtes peut-être en train de nous écouter sur une radio chrétienne, mais ça fait partie des plus grosses radios associatives des Pays de la Loire. Et puis, les plus petites, elles sont juste sur une petite localité, certaines en zone rurale avec leur petite communauté. Et les radios, en moyenne, ont 4 salariés, 4 TP, on va dire, 4 emplois à temps plein dans leur leur structure, mais on a des radios où il n'y a qu'un salarié et ça va jusqu'à 7, 8, 9 pour vraiment les plus grosses structures. Mais voilà, on est sur une moyenne de 4 salariés. Évidemment, si on enlève un salarié à chaque radio, tout ça va s'arrêter. C'est absolument incompréhensible dans une période où il n'y a jamais eu autant de disparités entre les territoires, dans une période aussi où on voit que le lien avec les citoyens sur l'ensemble des territoires et aussi en lien avec les médias n'a jamais été aussi distant. Et les radios associatives, c'est le dernier relais d'information locale. Donc on est vraiment, on tombe de haut et c'est assez incroyable.
Et Caroline Delaval, elle non plus ne l'a pas vu venir. La coordinatrice de l'autre radio en Mayenne est d'autant plus amère que cette baisse de subvention, si elle est votée, va à l'encontre des discours que les politiques tenaient il y a encore quelques mois.
Je suis sous le choc parce que l'an dernier a été lancée une grande opération qui s'appelait Printemps de la ruralité, dans lesquelles il y a tout un paragraphe sur l'utilité sociale des radios associatives. Et il avait été préconisé dans ce rapport qu'on pourrait dégager une enveloppe supplémentaire pour les radios implantées en milieu rural de 10 000 euros justement sur cette ligne FSER, ce que je trouvais assez cohérent avec nos contraintes, qui sont des contraintes aussi de territoires peu denses, où il faut beaucoup se déplacer, où l'information circule moins bien que dans les grandes villes. Couper les subventions de fonctionnement des radios associatives d'un tiers de leur montant, ça met en péril les postes, le projet associatif, la prise de parole des habitants, la communication sociale de proximité, la possibilité pour les associations du territoire de valoriser leurs actions, la possibilité pour les élus de s'adresser aux citoyens par le biais de notre média. C'est un outil d'expression citoyenne qui est menacé, oui, je pense. C'est plus de la moitié de notre budget de fonctionnement, hein, le FSER, donc ça va avoir des conséquences sur la pérennisation des postes. Et par ailleurs, nous sommes en train de déployer le DAB+ sur le territoire. Ça tombe juste à un moment où nous allons avoir des coûts de fonctionnement pour la diffusion en numérique qui vont tripler. Et donc, je ne sais pas comment on va absorber ces charges supplémentaires et ces produits en moins.
Une inquiétude partagée par bon nombre de radios associatives. L'annonce de ces économies passe mal également du côté des bénévoles. On en dénombre 25 000 environ qui donnent de leur temps pour l'une de ces 750 radios. Ils sont 1500 environ à l'échelle de la région, dont plusieurs centaines au sein des radios chrétiennes des Pays de la Loire. Bonjour Agnès Millot.
Bonjour Bastien.
Et parmi ces bénévoles, il y a des chroniqueurs qui sont engagés parfois depuis plusieurs décennies.
Et oui, aujourd'hui, la plupart de nos rédactions RCF sont héritières des petites radios chrétiennes lancées dans les années 80-90. Pas facile, à l'époque, de se faire une place dans le monde médiatique. Stéphane Arondeau est historien, fondateur de Radio Parabole en 92, aujourd'hui RCF Sarthe. Et ce coup de rabot budgétaire génère chez lui une vive émotion.
Je dirais que ça provoque plutôt chez moi une certaine forme de colère, parce que effectivement, on a mis des années et des années à en arriver là, c'est-à-dire à s'implanter, à faire partie du paysage audiovisuel. Et c'est vrai que ça a été un combat acharné. Cette mesure nous prouve bien que rien n'est jamais acquis. Mais c'est vrai que ça a été difficile d'arriver à créer ces radios. Alors, il y avait un engouement, il y avait une énergie folle à l'époque. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué, surtout non pas de les créer, mais surtout de les pérenniser. Mais si on nous coupe les vivres, entre guillemets, ça va devenir très difficile. Ça met en péril, en fait, l'avenir totalement des radios associatives.
Et puis on l'entend, Agnès, il y a une grande proximité qui s'est créée au fil des années, justement, entre ces radios et leurs bénévoles.
C'est bien ce qui fait la singularité de nos antennes. La distance entre l'animateur et l'auditeur est presque abolie. Alors ce n'est pas forcément le cas des grandes radios généralistes. Stéphane Arondeau assure des chroniques sur l'art sacré, sur RCF Sarthe, depuis plus de 30 ans. Et pour lui, cette proximité, eh bien, c'est une force.
Moi, ce qui m'intéresse dans la radio associative, c'est qu'on peut y défendre, entre guillemets, des causes qui nous tiennent à cœur et qui ne sont pas forcément celles qui sont reprises par les grands médias. Ces radios-là, ça nous a permis de trouver un auditoire. Il y a des gens de l'autre côté qui écoutent et qui nous renvoient également une image, une information. Et c'est cet échange-là qui, pour moi, est fondamental. On a un lien direct, je dirais, avec nos auditeurs. Et c'est vrai que si ce lien disparaît, c'est un peu dommage, tout simplement au niveau des relations humaines.
Et l'enjeu aussi derrière, Agnès, eh bien, c'est la question de la liberté d'expression.
D'expression, de ton et de création. Trois paramètres qui sont l'essence même de nos lignes éditoriales. C'est ce qui permet à nos bénévoles de mettre en avant des sujets originaux. Axel Godin est pasteur évangélique au Mans.
Moi, pour ma communauté, c'est vraiment l'occasion de la faire parler, en fait. Ça fait 3 ans que je viens régulièrement. J'ai l'occasion de rencontrer plein de personnes différentes, d'échanger, de communiquer. Moi, j'ai un cahier des charges, c'est de venir partager ce que j'ai envie. C'est quand même génial. Donc, je peux parler de la vie de ma communauté. Je peux aussi parler de ce que j'ai personnellement sur le cœur. Je peux interviewer ou me faire interviewer. Enfin, vraiment, c'est très riche. Et j'ai vraiment, l'occasion d'aborder des thèmes que je pense que j'aurais jamais abordés ailleurs, quoi. Donc, c'est vraiment chouette.
Des témoignages recueillis par Agnès Millot. Merci beaucoup Agnès pour tous ces témoignages. Je rebondis d'ailleurs sur cette pluralité de tons et d'informations dont parlaient ces bénévoles à l'instant. Normalement, l'ARCOM y est sensible. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est censée veiller au pluralisme des médias et à l'intérêt du public. Il y a quelques jours encore, lors du congrès de la Fédération des radios chrétiennes, Hervé Gottschau, membre de l'ARCOM, insistait justement sur le rôle primordial de nos radios dans le paysage médiatique.
D'une manière générale, les radios associatives, qui sont une spécificité française, hein, il y en a 750 en France, on ne trouve ça nulle part ailleurs dans le monde, on a un paysage radiophonique tout à fait exceptionnel. Leur rôle, c'est une mission sociale de proximité. Et quand on parle de proximité, on parle d'une proximité territoriale, d'avoir une radio qui est près de chez soi et qui vous parle de vous, mais aussi d'un point de vue social, sociétal, culturel, cultuelle, la proximité, elle peut revêtir des tas de formes différentes. Et par les temps qui courent, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la fracturation des opinions, à l'heure des bulles informationnelles, à l'heure de la curation algorithmique qui vous enferme dans des biais de confirmation, d'avoir un média traditionnel, un média de radio, un média d'intimité avec ses auditeurs en proximité, c'est très important et on est évidemment très attaché aux radios d'une manière générale et aux radios associatives en particulier.
Et Hervé Gottschau va même plus loin. Il met l'accent sur la nécessité de maintenir le montant des fameuses aides du FSER pour les radios associatives. Sans cela, ce sont de nombreux territoires isolés qui pourraient être privés du pluralisme médiatique.
L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Hein. Si on veut avoir des studios, si on veut avoir des animateurs, des journalistes, si on veut avoir des émetteurs, il faut avoir de l'argent. Et les radios associatives, grâce au Fonds de soutien à l'expression radiophonique, sont beaucoup moins en dépendance des marchés publicitaires et du privé. Il y a des radios commerciales hein, qui vivent tout à fait correctement des marchés publicitaires. Mais les radios associatives, justement, n'ont pas à se poser trop ces questions-là. C'est très important parce que certaines radios privées pourrait être tenté de ne pas investir certains territoires où il y a peu d'audience parce qu'il y a peu de gens et où il y a peu de marché publicitaire, donc il y a peu d'argent à gagner. Et donc les radios associatives, justement parce qu'elles ne sont pas dépendantes financièrement, ça leur permet de pouvoir être présentes sur des territoires où toutes les radios ne seraient pas forcément présentes.
Et voilà l'enjeu, maintenir un tissu médiatique associatif de proximité. Aujourd'hui, le FSER, c'est 35 millions d'euros de subventions versées à 750 radios. Si le projet de loi de finances était voté en l'état, le gouvernement pourrait s'enorgueillir d'une économie de 10 millions. Une goutte d'eau par rapport aux 60 milliards recherchés, mais une goutte d'eau qui pourrait être fatale à la moitié des radios associatives françaises. Allez, il est l'heure de clore ce chapitre pour évoquer à présent les augmentations de la taxe foncière.
L'Hebdo Région sur RCF et Radio Fidélité.
Les propriétaires immobiliers ont jusqu'à dimanche minuit pour payer leurs taxes foncières en ligne sur le site internet des impôts. Je rappelle que 35 millions de personnes sont concernées en France par ce prélèvement fiscal dont la valeur augmente chaque année au grand dam de notre invité. Bonjour Alexis Lagarde.
Bonjour Bastien.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président régional de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers en Pays de la Loire. Vous êtes également vice-président de cette fédération au niveau national. Fédération qui a publié cette semaine les constatations et les chiffres 2024 de l'Observatoire national de la taxe foncière. On va y revenir dans un instant. Juste avant ça, je voudrais qu'on fasse un tout petit peu de pédagogie avec vous. Rappelez ce que c'est que la taxe foncière, comment ça fonctionne exactement.
Alors, la taxe foncière a pris beaucoup d'importance depuis la suppression de la taxe d'habitation. Actuellement, c'est le seul levier qu'a une ville, une collectivité pour développer sa ville et servir les habitants avec tous les usages que vous connaissez. Donc, quand vous avez votre document sous les yeux, vous avez le taux de la commune et vous avez une base. Donc ça, c'est la base qui est calculée par l'État. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois en France qu'on dépasse les 40% en moyenne.
De taux d'imposition.
De taux d'imposition. Donc, c'est le taux d'imposition du loyer annuel. 40%, ça signifie donc qu'on est à 2,4 mois d'imposition de votre loyer. Donc ça correspond à 2,4 loyers mensuels.
Donc pour qu'on comprenne bien, 40%, donc ça c'est l'imposition, le taux moyen en France qui est appliqué, voilà. Et 40%, c'est 40% de la valeur
locative
du bien s'il était loué en fait.
Oui, la valeur locative. Donc c'est une valeur arbitraire. Donc vous pouvez très bien louer de manière bien inférieure. D'ailleurs, on y reviendra peut-être. Mais en gros, donc l'État définit la valeur locative. À partir de là, vous avez 40%. 40% sur donc ces 12 mois, ça revient à 2,4 loyers.
Cette taxe, Alexis Lagarde, elle a augmenté, c'est le moins que l'on puisse dire, sur ces 10 dernières années, de manière très significative.
D'abord, la bonne nouvelle, c'est que ça a un peu moins augmenté cette année.
La hausse est contenue en 2024, mais quand on regarde un peu dans le rétro...
Alors, c'est impressionnant. La taxe foncière elle-même a augmenté...
Au niveau national, c'est 33%. Sur ces 10 dernières années, entre 2013 et 2023.
En comparaison, l'inflation sur les 10 années, c'est 19%.
Entre 2013 et 2023.
2013-2023. La hausse des loyers, donc secteur libre, c'est 7,7%. Donc vous voyez finalement, ceux qui louent leurs biens, ils sont contenus. Contrairement à ceux qu'on prétend, qu'on annonce, en disant que les propriétaires augmentent sans arrêt les loyers. Au contraire, ils sont bien en dessous.
Est-ce que vous savez comment ça s'est passé au niveau régional ?
Notre région, je fais une parenthèse, mais qui est intéressante, notre région, c'est une des régions avec la Bretagne qui se porte le mieux sur le plan économique. C'est important parce que ça veut dire qu'on arrive à s'autofinancer plus facilement. On n'attend pas tout de l'État. En général, les communes ne sont pas surendettées. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, Nantes était recordman devant Angers en termes d'augmentation. Cette année, par exemple, ça va être Rezé. Rezé est bien situé. Il y a
donc en Loire-Atlantique.
En Loire-Atlantique, Nantes est revenu un peu dans les rangs. Donc, vous savez, il y a un aspect politique à ces augmentations.
Donc, pour en revenir aux taux qui sont pratiqués dans les villes, les principales villes des Pays de la Loire, donc 56% taux d'imposition à Angers, deuxième ville la plus imposée de France sur cette taxe foncière. On est à 55% à La Roche-sur-Yon, 46% à Nantes et à Laval, grosso modo, 36% du côté du Mans. Qu'est-ce qui... peut expliquer aussi cette disparité des taux appliqués.
C'est des grands projets de développement. Le tram, c'en est un.
Le tram à Angers, par exemple, oui.
Voilà. Il y a d'autres sur la transition énergétique, par exemple, des bâtiments. Donc, il y a aussi un énorme chantier à venir là-dessus. Il peut y avoir beaucoup d'idées pour développer cette taxe et pour pouvoir l'imputer à différents projets.
Ça peut augmenter, mais ça ne descend jamais, finalement, la taxe foncière.
Il va falloir s'habituer à ces taux-là, en tout cas. Les propriétaires bailleurs ont intégré ces 2-3 mois et voire plus de loyers. Vous voyez la rentabilité. On pense que être propriétaire, on gagne beaucoup d'argent, mais quand vous rajoutez ensuite toutes les autres taxes, parce qu'on a aussi, vous avez des charges, vous avez des remboursements d'emprunt, etc. En gros, la rentabilité aujourd'hui d'un bien, elle tourne entre moins 1% et plus 2%. C'est vraiment réduit. Si vous avez un accident de parcours, c'est compliqué. Donc ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de propriétaires se retirent du marché. C'est un des éléments de la crise du logement.
Alexis Lagarde, je rappelle que vous êtes le président régional de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers en Pays de la Loire. Peut-être rappeler juste en un mot, qui sont en fait les propriétaires que vous représentez? Quels sont leurs profils exactement?
Le profil, beaucoup de gens ont travaillé toute leur vie, ont pu épargner et avant le départ de la retraite, essayent d'avoir un petit bien, c'est-à-dire un studio ou un deux pièces, c'est le profil, on va dire, majoritaire, pour avoir un complément d'épargne. Là, je parle des propriétaires bailleurs. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est qu'en gros, ça rapporte théoriquement à peu près 300 euros par mois. Vous voyez, vous enlevez toutes les charges dont on a parlé, le pourcentage, il reste plus grand-chose et des remboursements. Jusqu'à leurs 80 ans, c'est pour ça qu'ils se découragent. Et là-dessus, on leur met des obligations réglementaires de DPE, de rénovation obligatoire,
rénovation énergétique,
un classement E, F, G. donc avec des dates butoirs. D'ailleurs, la date qui va venir, là, au 1er janvier 2025, déjà on sait que beaucoup de logements ne pourront pas être traités. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui répondent pas, on vous dit, l'ADEME propose de faire 3 consultations d'entreprise pour avoir des travaux. Quand vous en avez une, vous êtes content. Sans compter les délais, parce qu'une fois que vous avez l'entreprise, elle vous dit, mais attendez, maintenant, moi, j'ai tel délai, etc. Sans compter les surcoûts qui se mettent avec l'énergie, avec le coût des matériaux, etc. Et votre devis, il prend de l'inflation. Et donc, ça rentre plus dans votre budget. Vous voyez, il y a un cercle vicieux. Je sais que le gouvernement travaille là-dessus. C'est très complexe et c'est loin d'être résolu.
Juste pour revenir aux propriétaires, donc ce sont loin d'être des gens richissimes, c'est
ça ? La majorité, c'est un logement. Donc, et la moyenne d'âge, c'est plutôt âgé parce qu'il faut économiser toute sa vie pour pouvoir acheter.
Quel est le sentiment qui prédomine aujourd'hui, justement, chez les propriétaires des Pays de la Loire que vous représentez, Alexis Lagarde ? Est-ce que, par rapport à ces hausses, finalement, de taxes foncières, est-ce que c'est de la colère, c'est de la lassitude, c'est quoi ?
C'est de la colère, mais la colère a été dépassée par la problématique de la rénovation énergétique, donc la transformation des logements, les travaux à faire. Et là, ils sont angoissés parce qu'il y a des dates butoirs. Ils n'ont pas forcément les moyens. Et donc, il y a tout un débat sur le fait de faire un monogeste ou faire une rénovation complète. Le monogeste, c'est parfois contradictoire avec ce qu'on va faire dans la deuxième phase. Peut-être qu'il va falloir démonter ce qu'on a fait. Donc, vous voyez, c'est extrêmement complexe. Donc, j'ai été auditionné notamment sur le sujet de savoir la lisibilité des aides, comment les rendre plus lisibles et compréhensibles. En gros, tout le monde est perdu. Tout le monde, même les spécialistes.
Est-ce qu'il y a, au-delà de ça, aussi un sentiment d'injustice de la part des propriétaires, de sentir que beaucoup de choses pèsent sur leurs épaules ?
Le propriétaire, quand il s'engage et qu'il fait donc du locatif, c'est effectivement pour avoir un complément de salaire, mais quand même, on a un rôle social extrêmement important. Il y a plus de personnes en situation de fragilité chez les propriétaires que nous sommes que dans les offices d'HLM. Alors nous, ce qu'on veut, on souhaite qu'il y ait un statut du bailleur privé.
Qui changerait quoi ?
Qui soit reconnu. Ben, sur le plan de la fiscalité et des déductions. C'est-à-dire que ça permet d'investir plus facilement plutôt que de donner des lois du flot et autres. Donc à l'achat de nouveaux appartements, maisons ou autres, ça permettrait au propriétaire bailleur de pouvoir gérer son bien, l'amortir et que ce soit reconnu fiscalement comme n'importe quelle entreprise finalement.
Parmi les solutions envisagées également par l'UNPI, je crois qu'il y a le retour ou la création plutôt d'un impôt pour les usagers. Vous y réfléchissez en tout cas, vous mettez le dossier sur la table ?
Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on cherche à développer, qu'on explique à nos interlocuteurs à tous les niveaux, hein, politiques. L'idée, c'est que finalement, tout habitant utilise les biens publics. Et il y a seulement les propriétaires qui les utilisent, du moins qui payent, qui contribuent. Donc il faudrait une partie soit de la taxe donc foncière qui puisse être imputable comme la taxe des ordures ménagères, donc imputée aux locataires, ou bien une autre solution, c'est qu'il y ait une nouvelle taxe différente qu'on revisite en fait pour pouvoir intéresser l'ensemble des habitants. Quand vous ne payez pas d'impôts, vous n'êtes pas associé aussi au respect des biens publics.
On ne se sent pas concerné quand on ne paye pas d'impôts.
Pour certaines personnes. Il faut un partage. Alors, ça veut dire qu'après, il y a des contreparties. La contrepartie, c'est quand vous avez des transports publics, comme le tram, comme le transport dans les Pays de la Loire, des TER, etc., on ne paye que 30% du billet. Donc, on voudrait la gratuité, mais c'est tellement énorme, les chiffres. Donc, plus il y aura donc une participation. Après, on ne parle pas des gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Mais vous savez, on connaît des locataires dans certaines villes qui sont propriétaires de maisons sur la côte. Et en fait, ils ne payent rien dans leur commune. Il y a des anomalies comme ça. Il faut quand même une réflexion globale sur ce sujet.
Rétablir la taxe d'habitation serait une solution pour que, justement, les communes soient moins incitées à réévaluer à la hausse leur taxe foncière.
Vous savez bien, remettre une taxe qui a été supprimée, psychologiquement, c'est très difficile.
Donc vous n'y pensez même pas ?
Non, ça serait l'équivalent, mais en expliquant à quoi ça sert. Voilà, mais on ne peut pas l'appeler taxe d'habitation. Ça serait une partie simplement de cette valeur, mais une contribution aussi des gens qui utilisent l'ensemble des services de la communauté.
Vous pensez que ça va être perçu comment par la population, ce genre d'idée?
La population, à partir du moment où c'est juste, c'est acceptable. Donc il faut l'expliquer, c'est de la pédagogie. Et surtout, ce qu'on demande aussi, c'est un dégrèvement de la taxe foncière qui soit accordé aux propriétaires qui réalisent des travaux de rénovation énergétique significatifs. Pour un monogeste, changer une chaudière, ce n'est pas le cas. Mais quand vous faites une rénovation lourde de votre logement, il faudrait qu'au moins, à minima, vous ayez un dégrèvement de la taxe foncière. Plutôt que de rechercher des aides où c'est du saupoudrage, manque de lisibilité, etc. Nous, on veut des choses simples, compréhensibles par tout le monde et qui amènera une dynamique sur les territoires.
Alexis Lagarde, président régional de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers en Pays de la Loire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation donc à l'occasion de la publication de ce rapport 2024 de l'Observatoire National de la Taxe Foncière. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Désolé d'avoir dépassé certaines frontières du foncier, mais c'est important aussi de le dire.
Je crois. C'est la fin de cette émission. À retrouver en podcast sur rcf.fr et sur les sites de vos radios fidélité. Merci à vous de l'avoir suivi. Cette hebdo région vous était proposée par l'ensemble des radios chrétiennes des Pays de la Loire. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, très belle journée et bon week-end.